Bienvenue à bord, j'ai le grand plaisir de recevoir Radu Portocala. On dit Radu ou Radu?
Radu.
Radu.
Et Portocala.
Ou Portocala, bon. Alors, oui, il y a ce qu'on appelle
Un accent tonique.
Un accent tonique, voilà. Chose qui n'existe pas dans la langue française et pourtant nous sommes cousins. Car le roumain est
cousins,
une langue roumaine.
Pas plus que cousin, oui.
Pas plus que cousin, pas germain, alors. Alors, vous avez déjà été invité sur Radio Courtoisie dès 1990, car vous aviez réussi à foutre le camp, il n'y a pas d'autre mot, de Roumanie, et là, vous aviez été embauché au Point pour écrire des articles contre notre ami, entre guillemets, Ceaușescu, et puis, vous alliez publier un livre, et heureusement, le vampire des Carpates est tombé. Donc, vous le publiez maintenant, ça s'intitule « Descendre dans la Roumanie de Ceaușescu » aux éditions Non Grata. Et je crois que c'est assez facile de se le procurer. Hein.
On peut le commander dans toutes les librairies. Normalement, les libraires sont approvisionnés par un grand distributeur. S'ils veulent le commander, ben, ils peuvent l'avoir. Sinon, c'est Amazon. Tout le monde n'aime pas, mais bon.
Mais on va peut-être parler plutôt du fond, car le fond est absolument passionnant. Alors donc, vous écriviez dans le Point, et le livre n'est pas paru, parce que la chute du tyran est arrivée, et heureusement. Alors, j'ai vu récemment un film sur le Cap, qui est de 2024, qui s'appelle « Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé » d'un nommé Bogdan Murașenu.
Oui.
Vous ne savez pas qui...
Je connais le nom.
Oui. Mais alors, il est évidemment critique, mais il semble quand même en deçà de la réalité de 1989, parce que les gens vivent très mal, mais c'était bien pire que ça, d'après ce que vous expliquez dans votre livre.
C'était extrêmement difficile depuis le début des années 80. Ils avaient serré la vis, parce que Ceaușescu s'était endetté très très fortement pour industrialiser le pays. C'était une obsession, d'ailleurs, qui était très liée à l'idéologie. Hein. C'est le communisme, c'est l'industrie, principalement. Il a fait construire plein d'usines, etc. Et puis, tout d'un coup, il s'est dit, si je dois de l'argent à l'Occident, je suis dépendant de l'Occident, donc je dois rembourser, même plus vite que prévu. Et c'est, je crois, un exemple sans pareil dans l'histoire. C'est une dette d'État qui a été remboursée avant les délais, mais bien, bien, bien longtemps avant les délais. Et ça, ça a eu un prix. C'est-à-dire que pour trouver cet argent, il fallait qu'ils vendent tout ce que la Roumanie produisait. Ça se vendait mal parce que ce n'était pas de la très bonne qualité. Ils vendaient toute la production agricole, enfin la plupart, etc. Et c'était arrivé à... Là, le pays était arrivé dans une situation de pénurie permanente, de famine, de misère. L'hiver, par exemple, dans les appartements, on ne chauffait pas plus que 8 degrés.
8 degrés? Parce que moi, je croyais que c'était un peu plus, 13
non,
peut-être.
Non, c'était 8 degrés. Et alors, ils avaient trouvé toutes sortes de moyens pour pallier à ça, mais c'était presque ridicule. C'est-à-dire que... Par exemple, ils avaient un plateau sur lequel ils collaient plein de cierges volés dans les églises qu'ils allumaient, et par-dessus une plaque en métal assez épaisse qui, elle, se chauffait et irradiait un peu de chaleur. Et vous savez, parfois, il fallait plus d'une demi-heure pour faire bouillir un litre d'eau, tellement le débit du gaz était faible.
Et puis, ça faisait pas des pâtes al dente, tout ça, non? Mais alors, en plus de ça, il y a une chose qui m'a beaucoup choqué, je veux dire, dans le film, c'est que ça se termine, il y a une révolte populaire qui chasse Ceaușescu. Vous y croyez, à la révolte populaire?
Non, je n'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur ça, et c'est pour ça que j'ai été invité en novembre 90, ici, dans ce studio. Un livre qui s'appelle « Le coup d'État roumain », où je développe la théorie que, en fait, ça a été un coup d'État organisé par Moscou dirigé par Moscou et que ça n'a pas été du tout une spécificité roumaine. Ça s'est passé partout en Europe de l'Est. Tous les régimes se sont effondrés en même temps, enfin, en l'espace de quelques mois, sans aucune opposition. Alors, quand on sait que ces régimes étaient d'une violence extraordinaire et qu'ils avaient les moyens d'appliquer cette violence, de voir qu'ils se sont laissés renverser sans réagir, ça pose des questions. Et puis, pour la Roumanie, bon, bah, j'ai quand même travaillé très longtemps sur ça. Je sais très bien ce qui s'est passé. Il y a eu des agents soviétiques du GRU qui ont été infiltrés quelques semaines plus tôt, des quelques milliers.
GRU, c'est les services secrets de l'armée. Hein.
C'est les services secrets de l'armée, oui. Il y a eu quelques milliers, 2000 personnages qui sont arrivés sous couverture de tourisme en Roumanie et principalement autour de Timișoara, là où ça a commencé, ce qu'ils appellent la ville martyre. Et il y a eu, si vous voulez, c'est assez intéressant parce que c'est exactement à 37 ans de distance, c'est exactement ce que les Américains ont essayé de faire en Iran au début de cette année. Une révolte populaire pour renverser le gouvernement. Sauf qu'ils ont été beaucoup moins malins que les Soviétiques.
Ils avaient peut-être plus d'expérience, les Soviétiques.
Quand on n'a pas d'expérience, on ne se lance pas dans ce genre d'aventure.
Mais vous savez, par exemple, moi, ce que j'ai très bien vu, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Gorbatchev n'a plus un sou dans les caisses et il vend l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest, charge à lui de faire le service, non pas après-vente, mais avant-vente. Et comme en plus Gorbatchev, les deux dirigeants qu'il détestait le plus, c'était Ceausescu, et Honecker, il s'en est pas privé.
Oui, mais il a vendu l'Allemagne de l'Est après avoir fait tomber le gouvernement, hein, parce que c'est Honecker est parti. D'ailleurs, c'était même pas Honecker à la fin, je me rappelle même plus quel était son nom. Mais c'est au moment de la réunification qu'il a vendu. Donc ça, c'est en 90.
Je pense que c'était, à mon avis, de ce que j'ai pu lire, je pense que c'était avant, mais. Par exemple, il est clair qu'en Allemagne de l'Est, par exemple, à la chute du mur de Berlin, on ne voit pas de Vaupeaux.
Non, mais non, il n'y en a pas. Et vous savez, ce qui est fascinant, c'est que, et on ne veut pas le voir, tout ce mouvement commence par une chose très simple. En Hongrie, il y a des touristes est-allemands. À l'été 89. Touristes est-allemands qui se baladent en Hongrie, pays frère. Et tout d'un coup, la frontière entre la Hongrie et l'Autriche s'ouvre. Et les touristes est-allemands peuvent passer en Autriche.
Et les Hongrois par la même occasion.
Eh bien, il y a eu des officiels hongrois de l'époque qui, quelques années plus tard, ont dit clairement « Mais vous pensez pas qu'on a fait ça sans l'autorisation de Moscou ?»
Bah oui.
Et puis, il y a une autre chose très intéressante. Vladimir Bukovski, qui était un homme extraordinaire et dont tout le monde devrait lire le premier livre.
Et le vent reprend ses tours. C'est issu de l'Ecclésiaste.
C'est bouleversant, c'est extraordinaire. Et Bukovski a été appelé à Moscou par Eltsine, pour préparer des dossiers en vue d'un éventuel procès du communisme, qui n'a jamais eu lieu, bien entendu. Donc il a eu droit de fouiller dans les archives du comité central. Il y a une chose assez cocasse, parce que Bukovski, connaissant très bien comment fonctionnait la bureaucratie soviétique, etc., Il habitait Londres, s'est muni avant de partir d'un ordinateur portable et d'un petit scanner. Donc il est arrivé dans les archives du Parti communiste, il a commencé à scanner des documents. Et à un moment donné, il y a un camarade qui est venu lui dire « Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est interdit, regardez. » Et Bukovski lui a dit « Mais non, c'est interdit de photographier, de photocopier, mais pas de scanner. » Et l'autre a dit « Ah oui, c'est vrai, continuez. » Et Bukovski a trouvé, hélas, on l'a tellement persécuté, on lui a tellement fermé toutes les portes qu'il a publié ça dans une seule interview. Il a trouvé un compte-rendu d'une réunion du Politburo de 1988 où Gorbatchev dit « Il faut finir avec les régimes communistes des pays de l'Est et prenez garde, il faut absolument que ça ait l'air de révolution. » Et c'est ce qui s'est passé. Puisqu'il le dit lui-même, pourquoi ne pas le croire ?
Alors, on va revenir sur la Roumanie. En 1983, je vais visiter Budapest. On appelait la Hongrie la plus belle baraque du camp à l'époque.
C'est vrai.
Et j'ai vu des gens... Alors, on avait parfaitement le droit, quand on était une terrasse de café, quand on était hongrois de Budapest, de dire du mal du régime. Ils s'en fichaient complètement. Mais il ne fallait pas s'organiser en partie, évidemment, mais ils s'en fichaient complètement. Alors, finalement, est-ce que... pourquoi y a-t-il une différence avec la Roumanie ? Est-ce que c'est la folie personnelle du dictateur et de son épouse ? Ou alors une nomenclatura différente ? Peut-être rappeler d'ailleurs ce qu'était la nomenclatura ?
C'était certainement une nomenclatura différente et de très très mauvaise qualité. La nomenclatura, c'était tout ce petit monde, enfin petit, pas tellement petit, qui dirigeait le pays. Ça partait, je crois, du niveau de directeur, après directeur général, secrétaire d'État, ministre, etc. Mais tout ça, c'était très vaste, hein. Ils étaient nombreux. Et c'était, pour la plupart, c'était des espèces de parasites qui étaient rendus parasites, parce que le système était tellement centralisé, et Ceausescu était tellement obnubilé par l'idée qu'il fallait diriger absolument tout, que les ministres, par exemple, n'avaient aucune initiative. Ils ne faisaient qu'appliquer des directives qui venaient d'en haut. C'est pas eux qui décidaient. Et encore, un directeur général, encore moins, vous voyez, ou un directeur. C'était des exécutants. Et bien, tous ces gens n'avaient qu'un seul intérêt, c'était de garder leur place. Parce que si,
faut bouffer, comme on dit.
Faut bouffer, mais il faut avoir tous les privilèges. Il faut avoir.
Faut bouffer bien, voilà.
Voilà, il faut avoir leur. Ah, mais vous savez, au moment où l'individu lambda avait du mal à se nourrir, à acheter de quoi manger, tout ce monde était approvisionné par une institution qui s'appelait la ferme du parti, où on passait, c'était une, entre autres, et ils avaient un service de catering. Donc on téléphonait et on avait un déjeuner qui coûtait trois fois rien. Et j'ai vu une fois le plateau qu'ils apportaient, c'était absolument somptueux. Vous voyez, par rapport aux saletés qu'on trouvait dans les magasins.
Mais ça, c'est dans tous les pays communistes,
oui,
en fait.
Oui.
Vous savez,
oui,
la fameuse phrase. La vie est devenue meilleure. La vie est devenue meilleure sous Staline.
Bon, pour
non, pour la bureau, pour la nomenclatura, effectivement, oui. Ils vivaient bien et c'était des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui devaient la fermer, mais tout se paye. Hein. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir, cher Radu Portocala,
voilà.
Pardon. Et puis, alors, il faut mettre l'accent tonique, hein.
Sur A. Le premier, n'importe quoi.
Aïe, 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 aïe. Pour votre livre « Descendre dans la Roumanie » de Ceausescu, aux éditions Non Grata, qu'on peut commander en librairie. Et dites-vous bien qu'un libraire a parfaitement le droit de ne pas l'avoir dans sa librairie, mais ne peut pas refuser qu'on le commande, car le refus de vente est interdit par la loi. Alors, est-ce que parmi tous les gens qui ont étudié le communisme et de manière très... Bon, j'étais pas du tout proche de lui, mais je l'ai rencontré plusieurs fois, c'est Alexandre Zinoviev.
Ah oui.
Et je me souviens très bien de... Nous, on était... Bon, franchement, on était contents de voir le mur de Berlin s'effondrer. Mais en même temps, il nous a dit « Ah, on a cru qu'on luttait contre le communisme, mais en fait, on luttait contre la Russie. » Et elle a failli y passer avec Gorbatchev, quand même, la Russie, hein. Et puis après, surtout Helsinki, qui était complètement vendu à Clinton.
Oui, c'était une catastrophe. Mais c'est comme ça, cette avalanche communiste qui s'est abattue sur l'Europe de l'Est, s'est traduite par une antipathie viscérale contre l'Union soviétique et par ricochet contre la Russie. Et ça continue. C'est-à-dire que maintenant, dans les pays anciennement du glacis soviétique, il y a une antipathie très forte contre les Russes.
Même en Roumanie.
Même en Roumanie, oui.
Ah, pourtant, il y a un candidat qui a failli gagner et qu'on a complètement empêché de gagner.
Oui, mais il n'était pas pro-russe. Il n'était pas contre, mais il n'était pas pro.
C'est déjà pas mal.
C'était un personnage ridicule. Non, mais c'était très fort. Et moi, je me suis fait insulter, je ne sais pas combien de fois, par des gens de Roumanie qui disaient « Ah, t'es pro-russe, t'es... » Non, mais j'ai aucune raison. Je ne fais pas l'amalgame. Tu te rappelles pas ce qu'ils ont fait à ta famille. Mais c'est pas eux qui ont fait ça à ma famille.
C'est le communisme.
C'est le communisme. C'est des officiers soviétiques ou des conseillers soviétiques, etc., qui étaient en Roumanie, qui dirigeaient l'affaire. Ça veut pas dire que la Russie tout entière était derrière eux. Donc je fais quand même la distinction très nette entre les choses. Mais en Roumanie, il y a une très grande antipathie.
Toujours.
Presque générale. Oui, toujours.
Mais finalement, les pays très pro-russes, à la fois par la religion orthodoxe, mais vous l'êtes orthodoxe, c'est la Serbie. Il y a guère que la Serbie qui soit traditionnellement l'allié de la Russie.
Mais parce que la Russie a pris sa défense au moment de cette guerre absurde.
Elle l'a mal prise, hein. Franchement, j'ai bien suivi cette question.
Oui, mais ça, ils ont essayé.
Avec Poutine, ça serait peut-être passé différemment, à mon avis. Le bombardement de la Yougoslavie d'une manière scandaleuse, honteuse. Enfin,
Et n'oubliez pas, le premier soir, ce qu'ils ont bombardé, ça a été l'ambassade de Chine à Belgrade. C'était une bonne réussite de l'armée américaine.
Oui, et puis en même temps, dire, voilà, on voit parfaitement les alliances, les choses possibles, tenez-vous tranquille, et voilà. Bon, ça serait peut-être tout à fait différemment aujourd'hui. Mais justement, Zinoviev, et ça m'intéresse, il nous disait, nous étions avant dans un communisme de pénurie, fallait faire la queue. Il disait, par exemple, c'est un mode de fonctionnement de la dictature, que les gens partent au boulot avec un cabas, parce que s'il y a une queue, on la fait, et peu importe ce qu'on vend, mais si on peut acheter quelque chose, c'est toujours ça de prix. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, et c'est un peu le système français, j'espère que vos papiers sont bien établis en France, mais est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, en France même, dans un communisme de marché?
On peut le dire, en tout cas, moi, malheureusement, je retrouve ici des choses dont je pensais que je n'allais plus jamais les voir.
Lesquelles? Par exemple, le parti unique?
Le parti unique, les idées uniques, le fait que vous votez avec l'un ou l'autre, ça donne exactement la même chose.
C'est un parti unique.
Voilà, le fait que vous votez avec pour un député que vous ne voyez plus jamais, avec lequel vous n'avez plus aucun rapport, qui se fiche complètement de vous, qui ne fait que respecter les ordres qu'on lui donne, que le parti lui donne, etc. Oui, puis cette censure qui commence à s'installer petit à petit.
Une police de la pensée.
Une police de la pensée.
Et au fond...
Et puis ça, elle est très forte. Hein,
elle n'est peut-être pas aussi forte qu'en Union soviétique, mais ça peut peut-être développer. Je suis plutôt
ça
pessimiste.
Ça peut dérailler très facilement. Et l'impression que j'ai, et ça c'est un sujet que j'aimerais traiter un jour, on ne se rend pas compte. On pense que la dictature... c'est nécessairement des chars et une police politique.
Très
pas
juste.
Forcément. La dictature peut venir en douce, peut vous surprendre à votre table de travail, peut vous pousser à jeter la moitié de ce que vous venez d'écrire parce que, oh, mon Dieu, c'est pas très bien. Et en plus, et c'est ce qui est terrible, elle ne vient pas toujours d'en haut. Elle peut venir d'en bas.
Préciser.
C'est le... c'est une catégorie, une partie du peuple lui-même qui impose des idées. Qui, vous voyez ce qui se passe maintenant, toutes ces, par exemple, toutes ces lettres de protestation qu'on signe en masse pour interdire telle ou telle chose, non ? Ben ça, c'est une dictature qui vient d'en bas. C'est pas, on n'a pas besoin d'un dictateur en haut. Le peuple peut-être son propre dictateur. Et oui, là, c'est une catastrophe.
Mais enfin, peut-être qu'on lui suggère aussi cela. Hein,
c'est... On lui suggère, mais il se laisse faire.
Oh ben ça, complètement.
Et vous savez, je n'ai pas lu Lénine, mais il semblerait qu'à un moment donné, il a dit... le communisme sera définitivement installé au moment où on arrivera à un point de non-retour. Ce point de non-retour n'a jamais été défini. Au moment où il avancera tellement qu'il atteindra un point de non-retour. C'est très dangereux, parce que ce point de non-retour, à mon avis, il peut être dans la société, quand la société se pervertit complètement.
Écoutez, moi, en bas de chez moi, bon, il y a un bistrot avec des tables rondes, avec un pied unique, et c'est recouvert de plastique qu'on ne peut pas enlever. Et en dessous, voilà ce que j'ai trouvé. Je vais vous le lire, hein, ça fait 3 ou 4 lignes, c'est pas... Il y a marqué ceci, sur les tables de bistrot circulaires. Hein. Dans certains pays, tu peux finir en prison pour une simple blague. Pas dans l'Union européenne, protégeons ce qui compte avec le drapeau étoilé. Mais bientôt, on va aller faire pipi dans un urinoir et il y aura marqué « obéis, pense, consomme », enfin c'est « ne
mais
pense pas,
est...
consomme ».
On m'a raconté que pendant la guerre, en Allemagne, il y avait des affiches sur lesquelles il y avait ce texte absolument monstrueux. « Allemand, ne pense pas, le Führer pense pour toi ».
Mais tous les
on
fureurs
n'est pas
pensent...
loin de ça.
Bah, tous les fureurs pensent...
Ne pense pas. Abandonne ta liberté. Les gens sont assez prêts d'abandonner leur liberté pour avoir d'autres avantages.
Alors, on a déjà des messages. Je vais en lire un, on va revenir un peu en arrière. Franchement, c'est oui ou non la réponse, mais ça m'intéresse. La fin du régime de Ceausescu, pardon, n'était-elle pas irrémédiable, même sans intervention soviétique, que ça allait finalement s'effondrer, non ?
Non. Il aurait pu continuer très longtemps parce qu'il était parfaitement bien installé. Il maîtrisait, c'est ça qui est extraordinaire, qu'il se soit effondré en 24 heures, c'est parce que c'est comme ça, en 24 heures, alors qu'il avait à sa botte une police politique omniprésente et omnipuissante, qu'il avait une armée qui était complètement politisée, qui lui obéissait aveuglément, enfin, il avait tous les leviers du pouvoir.
Et l'armée n'a pas réagi pour lui.
Mais non, parce que ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'on lui a retiré le pouvoir. On l'a coupé du pouvoir. Il a été isolé en quelques heures. Il n'a plus eu de pouvoir. Et c'est comme ça que ça s'est effondré. C'est très spectaculaire si on regarde attentivement.
Alors, le GRU, enfin les services secrets russes, ont été un facteur de progrès.
Bah, il faut le croire, oui.
Les paradoxes. Hein.
Mais c'est un paradoxe. Par exemple, si vous dites ça en Roumanie maintenant, vous vous faites incendier.
Oh, bah, j'irai pas en Roumanie si j'y vais pas.
Mais moi, je l'ai dit et je me suis fait incendier. Comment tu vas soutenir que l'Union soviétique nous a libérés ? C'est quand même ça, ils ont libéré. Là, vous savez, en Tchécoslovaquie, pourquoi il y a eu le fameux printemps de Prague, la grande manifestation à Prague ? C'est parce qu'il y a eu un mort. Un mort. Et ce mort-là, qui a fait sortir les gens dans les rues par dizaines de milliers, ce mort-là, quelques semaines plus tard, donner des interviews à la BBC et avouer être un agent de la police politique. Oui, on lui a demandé de faire le mort pour exciter les gens. Il faut toujours quelque chose qui excite les gens. Et ça dépend du pays. En Roumanie, c'était plus difficile, donc il fallait que le spectacle soit plus...
Et en France, alors, dans un pays dans lequel vous vivez... Et que vous aimez, hein, ça, c'est, votre livre le prouve, votre livre dont je rappelle le titre, descendre de la Roumanie de Ceaușescu et vous êtes rendu Portocala.
Portocala.
Ouais, Portocala. Bon, hein. Et c'est aux éditions Non Grata et ça peut se commander en librairie.
Oui.
Alors, on est toujours sur Radio Courtoisie, mais vous savez, je vous ai fait venir aussi pour une chose. Tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, nous sommes cousins, mais pas germains. Et pourtant, énormément d'écrivains roumains se sont réfugiés en France,
oui,
contre le communisme.
Non, mais même avant.
Goma, par exemple.
Mais même avant, parce qu'on parle beaucoup en Roumanie de l'avant-garde roumaine. Mais l'avant-garde roumaine, en fait, ça n'existe pas vraiment. C'est une succursale de l'avant-garde française. Et puis, elle a été composée de gens dont la plupart sont venus en France dans les années 30, qui ont commencé à écrire. Tristan Tzara, le père du dadaïsme, il est d'origine roumaine, mais toute sa vie artistique...
Et son fils, Tristan Tzara, il a fricoté avec les communistes, hein, oui.
Il a vécu en France, et c'est en France qu'il a... Hilary Voronka, le poète surréaliste, enfin, il a écrit principalement en France, etc., en français. Donc... il y a eu beaucoup, 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 tout le temps. Là, oui, il y a... On disait toujours, la Roumanie est la petite sœur latine de la France. Et on disait toujours... voilà. Et on disait toujours... Bucarest, c'est le petit Paris. Ça parce qu'autrefois, la vie était très sympathique et qu'on aimait bien venir à Bucarest vivre peut-être... encore plus librement qu'on aurait pu qu'à Paris dans les années 20 et 30.
Vous le pensez ?
Oh, je pense, oui, c'était une liberté totale. On faisait beaucoup d'argent, on gagnait beaucoup, et c'était une société qui était très sympathique. Mais tout ça s'est effondré en 1945, au moment où l'Union soviétique a envoyé ses troupes d'occupation en Roumanie et le régime communiste. Tout ça a fini dans les camps, dans les prisons. Les appartements d'autrefois sont devenus des appartements communautaires sur le système soviétique, c'est-à-dire que là où on avait une famille, père, mère et un enfant, on a eu tout d'un coup 15 personnes qui utilisaient la même salle de bain et la même cuisine et qui finissaient par se haïr. Les mêmes toilettes et qui finissaient par se haïr au bout d'une semaine.
Ça faisait partie du système de gouvernement.
Ah oui, moi j'ai appelé
c'est
ça.
C'est pas du tout par manque de place.
Non, pas du tout. Moi j'ai appelé ça la torture collective. Ça a été appliqué que dans les villes, évidemment, pas à la campagne. Mais c'était un moyen de torturer les gens, en effet.
Alors, vous citez à un moment un écrivain qui n'est pas beaucoup connu en France, Paul Goma.
Paul Goma, non, il n'a pas été très connu en France, mais il a joué un rôle très important en Roumanie parce que il a été le premier qui a écrit au moins deux romans dans lesquels il dénonce le système. Alors, il faut dire qu'il avait un passé assez lourd. Il a été emprisonné en 1956, quand il y a la révolution hongroise. Beaucoup d'étudiants en Roumanie se sont solidarisés et ils ont essayé de faire quelque chose. Évidemment, ça a raté. Et évidemment, ils ont fini tous en prison. Goma aussi. 56, il a fait 2 ans de prison, plus 3 ans de domicile obligatoire. Ensuite, ça fait 5 ans quand même. En 75, je crois, il a écrit un roman qui s'appelait Ostinato, qu'il a réussi à envoyer à l'étranger. Donc, il a été publié en Allemagne et en France. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas le droit de faire. Oui.
Vintila Horia, par exemple, il a été publié en France. Alors, il paraît que lui, il avait un passé un peu sulfureux.
Eh bien, non.
Non ?
Ça, c'est non. Ça, c'est une invention. C'est très infect. Vintil Eolia, non, c'est pas, j'ai pas dit que c'était vous. C'est Vintil Eolia a écrit et publié Dieu est né en exil, pour lequel il a eu le Goncourt. Mais comme il avait pris position très ouvertement contre le régime de Roumanie, ça a agacé le régime de Roumanie que le Goncourt lui revienne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Vintil Eolia, c'était son pseudonyme. Il s'appelait Kaftancioglou. Ils ont trouvé qu'il avait un cousin germain qui s'appelait Kaftancioglou, qui lui a fait partie des gardes de fer, donc le mouvement fasciste,
ah, voilà,
etc.
Voilà.
Donc on a fait un amalgame.
Exprès, bien entendu.
Bien entendu.
Voilà,
on a dit, c'est la... Non, non, mais ça a été la presse ici. Et un des premiers qui a écrit contre lui, c'est le fameux Virgil Gheorghiu, l'auteur de la 25e heure, qui a écrit un article fulminant dans l'Humanité contre Vintil Eolia.
Bah, il était quand même anticommuniste, Gheorghiu, non ? Il a quand même fui le communisme, il est arrivé en France en 1948, je crois.
Il a été...
Alors, il est surtout connu pour la 25e heure.
Oui, oui, mais après, il a écrit des pelletés de livres.
Moi, j'ai lu un livre de lui qui est très intéressant, il s'appelle « Les mendiants de miracles », où il dénonce les racistes aux États-Unis, et dans un second temps, il dénonce les antiracistes qui se servent du racisme. Vous voyez, c'était bien
oui,
vu
mais
quand
Vintil,
même.
Virgil Gheorghiu avait un passé à rattraper, à récupérer, à cacher. Il a écrit, lui, il a fait partie du moins par l'écrit, il a fait partie des gardes de fer, donc le mouvement dit fasciste. Il a écrit un livre qui s'appelait « Les rives du Dniestre brûlent », qui est un livre carrément de propagande pour la Wehrmacht. Et quand il est arrivé ici, il a écrit « La 25e heure » avec ce pauvre type qu'on prend pour un juif et qui se fait persécuter, etc. Donc il fallait qu'il cache son passé. Et quand il y a eu l'histoire avec Vintil Eolia, il a été le premier à dire, voilà, moi je suis un démocrate, j'ai rien à me reprocher, Vintil Eolia est un misérable. Or, ce n'est pas Vintil Eolia qui était un misérable, c'était son cousin qui avait été membre de la garde de fer. Et c'est resté comme ça, même aujourd'hui...
Vous voyez, moi je le croyais, Vin... Bon, j'en ai plus rien à faire aujourd'hui, hein, mais je le pensais que Vintil Eolia avait. C'est ce qu'on m'a toujours dit.
Non, c'est faux. Et même, je vous dis, même aujourd'hui, il a la ville, sa ville natale lui a donné le titre de citoyen d'honneur. Il y a eu un tel scandale qu'ils ont dû le retirer. Parce qu'ils ont dit, non, c'est un fasciste, alors que le pauvre homme n'a rien eu à faire avec ça.
Vous êtes arrivé en quelle année, vous, en Paris, en France, enfin ?
Moi, je suis parti de Roumanie en 1977. J'ai vécu 5 ans en Grèce. Et je suis arrivé à Paris en 1982.
Alors là, vous avez dû connaître des Roumains de Paris, Mircea Eliade, Cioran, Ionesco.
Cioran a été un ami, et je suis justement en train d'écrire... des souvenirs avec lui.
Ça m'intéresse, faudra revenir me voir avec votre livre.
Il faut que ça soit d'abord fini et ensuite publié. Et j'ai rencontré une fois Mircea Eliade, mais il était en très mauvais état. Déjà.
Alors il faut expliquer.
J'ai fait son nécrologue en revanche pour Radio France Internationale.
Il faut dire que Mircea Eliade, c'était plutôt un historien des religions.
Des religions, oui.
Avec des tendances un peu, comment dirais-je, universelles sur ce qu'il y a de commun dans les religions. Et puis Ionesco, alors là, qui est quand même entré à l'Académie française, est très anticommuniste, ne serait-ce que par sa pièce « Le rhinocéros ».
Ionesco était très anticommuniste et il s'est passé une chose assez drôle avec lui. Il y avait à Bucarest un journal qui s'appelait La Semaine, qui était une espèce de porte-voix du parti. Et dans La Semaine, ils avaient pratiquement une rubrique permanente qui insultait les Roumains de l'étranger. Qui faisait quelque chose, qui avait une activité politique. Et à un moment donné, il y a eu un article très élogieux sur Ionesco. Regardez Ionesco, lui qui est un si grand écrivain, etc., et qui ne salit pas de sa plume la, le bon renom de, du camarade Ceausescu, etc. Alors Ionesco a vu rouge, et quelques jours plus tard, sur les ondes de Free Europe, qui était une radio qui émettait vers, la, vers les pays de l'Est et vers la Roumanie, a lu lui-même un message adressé à Ceausescu, qui était sanglant, mais sanglant, c'était terrible. Si j'avais été Ceausescu, je me serais suicidé en attendant ça.
Hélas.
Il lui dit à un moment donné, écoute, cher camarade, tu devrais quitter le pouvoir et venir en France, où je m'engage... assurer ton avenir et celui de ta femme, je vous trouverai à tous les deux du travail selon votre qualification, toi tu seras apprenti cordonnier et ta femme sera femme de ménage, enfin, parce que c'est ça ce qu'ils avaient été autrefois.
Et Rhinocéros, c'est la première sans doute grande œuvre anticommuniste moderne, avec tout ce qu'il a apporté dans le sens de l'absurde qu'on a vu évidemment dans cette pièce qui dure toujours, hein, qui est toujours programmée.
Mais on le joue toujours, oui.
Oui, la cantatrice chauve et la leçon.
La cantatrice chauve, j'ai lu il y a quelques années, a été jouée dans un théâtre en Inde sans nom d'auteur. Et quand quelqu'un a demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce, de qui est-elle, on lui a dit... Oh, je crois que ça fait partie du folklore indien.
Alors,
c'est une réussite.
J'ai un témoignage qui n'est pas. J'ai un auditeur de Radio Courtoisie, d'ailleurs on peut dire son nom, il était chauffeur de taxi, Alain Corté, et il était le chauffeur de taxi attitré d'Ionesco, qu'il allait chercher chez lui, 96 boulevard du Montparnasse, oui. Voilà, qui était un homme absolument charmant et académicien français, à l'époque où ça voulait peut-être dire encore quelque chose. Voilà.
Non, c'était un homme charmant, mais il a eu, le pauvre, il a eu... une fin longue et compliquée, hein, parce que sa santé s'est dégradée petit à petit, il ne sortait plus, il ne voyait plus personne.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec le communisme.
Non, rien à voir.
On ne peut pas tout lui mettre sur le dos quand même. Non, mais est-ce que vous connaissez cette photo qui avait été faite par ce photographe des écrivains, Louis
Manuel ? Je l'ai chez moi.
Comment ?
Je l'ai chez moi.
Oui, où on voit sur la place Fürstenberg...
Les trois.
Cioran, Eliade et Ionesco. Et qui a été ils ont été réunis les trois grâce à un éditeur, Pierre Belfond, qui était d'ailleurs un ami, et qui a fait ça pour le plaisir. Mais il avait publié des entretiens avec Ionesco dès les années 60. Il a publié Mircea Eliade. Pas Cioran, mais enfin bon, ça, on ne peut pas être partout.
Non, Cioran a été depuis le début chez Gallimard et il n'a pas... Mais Cioran et Ionesco étaient très très liés, ils étaient très amis, et Cioran me racontait que, bien sûr, autrefois, ils se baladaient ensemble beaucoup dans les rues et que de temps en temps, ils s'arrêtaient... sur un trottoir, et puis il regardait les passants, puis il se moquait des passants, il faisait des blagues sur les passants, et il s'appelait... Cioran, déjà, avait le téléphone en horreur, enfin, ça, c'était la déclaration, mais quand il mettait la main sur le téléphone, ça durait 2 heures. Il parlait...
Cioran, d'ailleurs, lui, il habitait vers l'Odéon.
Rue de l'Odéon.
Au 10, je crois.
Au 21.
Au 21, hop. Je ne suis pas tombé loin.
Au 21, oui. C'est le dernier immeuble sur la place. Oui, et bien c'est là où on a trouvé, dans la cave, des manuscrits. Ça a fait un scandale avec la Roumanie, etc. Parce que sa compagne, comme il disait, Simone Bouet, a tout rangé, elle a publié l'énorme volume cahier chez Gallimard, et elle n'a pas cherché dans la cave où une femme de ménage a trouvé des cahiers de manuscrits de Cioran, qui ont été mis en vente chez Drouot, Et je crois que la Roumanie a essayé de racheter tout le lot, mais je crois qu'ils ont acheté que quelques-uns finalement. Enfin, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans.
Je voudrais dire aux auditeurs, voyez, c'est formidable parce que tous ces écrivains qui ont fui le communisme, ou disons que, bon, ils ont eu la chance de ne pas en faire partie, de ne pas en être et tout, mais ils étaient tellement aussi français. On peut dire qu'ils étaient franco-roumains.
Mais complètement, oui.
Mais voilà, mais je suis content que vous le disiez.
Mais complètement. Et on n'arrête pas de dire que Sioran était un des plus grands stylistes de la langue française du XXe siècle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'était une personne qui était née en Transylvanie, donc où il a reçu ses premières années de vie, une culture allemande. Et il est arrivé aux Français assez tard, quand il est venu à Bucarest pour faire ses études. Ça a été... D'ailleurs, je raconte ça dans ces petits souvenirs que j'ai écrits. Son premier livre qu'il a écrit en français en 1949... Il voyait un personnage dans des cafés à Saint-Germain-des-Prés, il ne m'a jamais dit comment il s'appelait, qui était un maniaque de la langue française et un maniaque de l'imparfait du subjonctif. Et il lui a fait lire son manuscrit. Et l'autre s'en est fichu complètement du contenu. Il lui a dit « Vous écrivez comme un métèque ».
Ah bah bravo.
Ça, c'était la première variante de compositions. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce que s'entendre dire une chose comme ça, c'est pas très agréable. Il a tout refait, mais en passant une année, jour et nuit, avec des tonnes de café, avec des quantités énormes de cigarettes, etc.
Quel est l'alcool roumain? C'est quoi?
C'est la prune.
La prune, oui. Ouais. Bon. C'est pas ça la Slivovitz, non?
C'est aussi de la prune, voilà, mais elle est plus forte, la Slivovitz.
Ah ben, qu'est-ce que vous voulez. Et alors, il y a mon ami Jonathan Sixou qui passe souvent dans mon émission, qui est un bon connaisseur de Paris, qui a écrit de très bons livres, vous le connaissez?
Non, mais je lis ses articles dans
Causeur.
Causeur,
oui. Il m'a dit, mais il faut absolument que tu demandes à ton invité qu'il nous parle un peu de la princesse Bibesco, qui a écrit, alors elle, c'est... avant, pendant et après la Première Guerre mondiale. Hein, donc, Catherine de Paris, vous connaissez Princesse Bibesco?
Alors, non, je l'ai pas connue.
Ah non, vous l'avez pas connue personnellement, mais sa littérature.
Un peu,
oui,
un peu.
Ouais.
Mais
non, je ne veux pas vous vieillir, rassurez-vous.
À ce point. Non, mais j'ai connu des gens qui l'ont connue et... C'est amusant parce que les avis sur elle étaient très, très, très différents d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, des Roumains, qui la détestaient, il y avait d'autres qui l'adoraient. Parfois, les mots étaient assez abrupts. Non, j'ai très peu lu. Non.
Je vais m'y mettre, c'est promis. En tout cas, je suis ravi de vous avoir reçu.
Merci
pour votre
beaucoup.
Livre, cher Radu. Porto Cala, hein. Ah, j'ai l'accent tonique à respecter. Faut toujours rencontrer les gens, hein, pour avoir l'accent tonique. Descendre dans la Roumanie de Ceaușescu. Vraiment un livre passionnant, dur, et qui est bon finalement de ressortir aujourd'hui. Parce que.
Mais c'est pour ça que j'ai voulu. Alors qu'il a été écrit en 89, c'est pour ça que j'ai voulu le republier. Je me suis dit, il y a trop de nostalgiques de cette époque. Et trop de gens qui ne la connaissent pas, qui disent
voilà.
Non, finalement, c'était pas mal. Eh bien non, c'était très mal.
Le vampire des Carpates, préférez le personnage de Dracula, qui est beaucoup plus sympathique, je crois.
Qui est beaucoup plus sympathique, en effet, mais qui n'a jamais vécu là où on dit qu'il a vécu.
Et aux éditions Non Grata, ça se trouve en librairie. Merci cher.
Vous.
Et vous reviendrez surtout si vous faites un livre sur Sioran.
Ben,
et
vous
tout
le
ça.
Recevrez.
Bon, très bien. Et autre chose aussi, les deux parties de mon émission sont totalement dissemblables parce que maintenant nous allons parler avec une chanteuse. Et cette chanteuse, on va écouter tout de suite un morceau avant que je vous la présente. Et le morceau est très très chouette et très sensuel. Ça s'intitule La Féline.
il me trouve féline, il dit que j'ai du chien. Il aime mes canines, les chaud comme un lapin. Il veut que je sois sa poule, il me le dit quand on roule dans les rues de Paris, dans les rues de Paris. Il veut que je sois sa poule, il me le dit quand on roule dans les rues de Paris, dans les rues de Paris. Il me trouve tellement chouette, il m'appelle sa souris, sa panthère, sa tigresse, sa caille, son canari. Dit qu'il en perd la boule, lui et moi on roucoule sous les toits de Paris, sous les toits de Paris. Dit qu'il en perd la boule, lui et moi on roucoule sous les toits de Paris, sous les toits de Paris. Il dort comme une marmotte dans notre petit nid. Moi j'enfile mes bottes, je sors faire la fourmi. Lui il se la coule doucement pendant que je roule sous les rues de Paris, sous les rues de Paris. Et lui il se la coule doucement pendant que je roule sous les rues de Paris, sous les rues de Paris. Voilà qu'il me trouve vache, il aime plus mon caquet. C'est ce qu'il me rabâche, l'est comme un perroquet. D'abord mes larmes coulent, puis je noie dans la foule où tous les chats sont gris dans les rues de Paris. Puis les journées s'écoulent, je l'oublie dans la foule, dans les rues de Paris, dans les rues de Paris.
Eh bien, cette chanteuse est déjà passée dans mon émission et elle s'appelle Isabelle Sochefer. Bonjour Isabelle Sochefer.
Bonjour Alain.
Vous savez comment je vous ai connue en quelque sorte? C'est parce que bon, notre ami commun, d'ailleurs Thierry Sajat, qui est éditeur de poésie et poète lui-même, il a fait un livre sur les poètes de Montmartre.
Voilà, une anthologie.
Voilà, oui, vous habitez pas loin d'ailleurs,
exactement.
De Montmartre. Et j'avais trouvé que vos poèmes étaient marrants, rigolo, je dis, bah, ça change un peu des élégies. Et puis aussi, alors, je me dis, bah, tiens, j'ai vu votre photo, je dis, on va regarder sur YouTube. Et puis j'ai vu que vous étiez très marrante, que vous chantiez en vous accompagnant au ukulélé, instrument hawaïen. Et bah, comme j'aimais tout ce que vous faites, et surtout le fait, cette originalité, vous êtes venu d'ailleurs avec votre ukulélé, on dit ukulélé, ukulélé.
On dit en fait ukulélé normalement, c'est dans les vieux dictionnaires, ukulélé, O-U-K-O-U-L-E, accent aigu, L-E, accent aigu, et j'ai un vieux Larousse des années 40, et il y a ukulélé.
Alors, vous venez de publier donc un CD, comme on dit, un album...
Oui.
Qui s'intitule Chanson saignante. Aïe, aïe, aïe! Mais saignante dans le bon sens du terme,
oui.
Évidemment. Et il y a même une de vos chansons, d'ailleurs, qui s'appelle Sans mon ukulélé.
Sans mon ukulélé.
Voilà, voilà. Alors, cet album sur le monde, c'est un album sur le monde d'aujourd'hui, quand même.
Oui.
Hein? Avec toutes ces bêtises. Pas très sympathique, mais qui pourrait même devenir grave, parce qu'on sent qu'il y a... Expliquez un peu la genèse des paroles. Alors, vous faites les paroles, je crois qu'une fois vous devez faire la musique.
Non, j'ai fait la musique sur plusieurs chansons.
Oui.
On parle du dernier, hein, Chanson
oui,
saignante.
Puis...
Non, j'ai fait la musique sur plusieurs chansons. Et puis il y a d'autres chansons où la musique est faite en collaboration avec d'autres musiciens.
Il y a Pascal Granier qui revient souvent.
Oui, alors ça, ce sont des chansons assez anciennes. C'est quelqu'un avec qui je collaborais il y a longtemps.
Bah, vous avez raison, si c'est bon. Hein, même
voilà,
si
exactement. Bah, en fait, quand je vois, je ne me lasse pas de certaines chansons. D'ailleurs, quand je m'en lasse, j'arrête de les chanter. Donc, celles que j'ai mises sur ce disque, j'ai toujours autant plaisir à les chanter.
Alors, par exemple, on va les nommer, tout ça, bon. Mais il y a une chanson, moi, qui m'a beaucoup intéressé, parce que, bon, même si vous êtes jeune et moi, je suis plutôt un ancien, on a peut-être quelque chose en commun, c'est l'insomnie.
Ah oui, oh là là. J'ai mon diplôme d'insomniaque, hein.
On donne des diplômes d'insomniaque.
Ah, je sais pas, moi je me l'attribue, parce que c'est une chanson que j'ai écrite, il m'est arrivé une nuit vraiment de ne pas dormir, exactement comme dans la chanson.
Seule ?
Non, mais une qui m'a donné l'idée d'écrire la chanson. Malheureusement, non, il y en a eu plus d'une, mais une, c'est exactement ce que je décris dans la chanson. Et donc, je n'ai pas dormi, et le lendemain, je prenais l'avion. Et j'ai écrit les paroles dans l'avion.
Dans l'avion ?
Oui, je n'avais pas dormi de la nuit, donc j'ai pris après, je suis allée prendre mon avion. Et bah oui, on peut écrire dans l'avion, vous n'écrivez pas dans l'avion.
On peut même dormir, d'ailleurs.
Aussi, on peut dormir, mais je peux pas dormir assise. Donc, j'ai pas pu rattraper. J'allais aux États-Unis, je suis arrivée, j'avais pas dormi depuis 40 heures.
Vous étiez aux États-Unis pour chanter ?
Non, j'y allais pas pour chanter, mais je suis allée beaucoup aux États-Unis dans ma vie. Et donc, je suis arrivée, voilà, j'avais pas dormi. Quand je dois faire un voyage le lendemain, j'ai du mal à m'endormir, et là. Donc voilà, ça c'est l'insomnie.
Ce qui est intéressant d'ailleurs dans vos chansons, c'est que on sent pas l'inspiration de quelqu'un d'autre, même si je suis persuadé que vous aimez Brassens, Trenet, enfin tout ce qui
bien
est
sûr.
Concerné, et la chanson française. Et on va parler de vos spectacles à la fin de l'émission. Attention, il faudra bien noter, hein, parce
oui,
que
on donnera.
On le dira pas deux fois.
Mais si, on le dira deux fois.
vous êtes vraiment. On sent que vraiment, c'est les mots, les mots français, la langue française, c'est quelque chose...
Oui, c'est une passion. C'est une passion. Et d'ailleurs, c'est aux États-Unis que j'ai redécouvert la langue française.
Comment ?
Le fait de parler anglais tout le temps, le français avait une sorte d'étrangeté. Et puis, j'enseignais le français dans une université, ouais. Et oui, et donc, et de devoir l'enseigner, déjà de ne plus parler français pendant un certain temps, de devoir l'enseigner, donc d'avoir. Ça fait une sorte de redécouverte de la langue. Tout d'un coup, j'ai regardé cet objet. Alors que quand on est toujours ici, qu'on parle toujours français, on se pose pas de questions, quoi. On parle, on dit ce qu'on a à dire.
Oh, vous savez, les gens qui parlent en français aujourd'hui, ils mettent de plus en plus de mots anglais, alors.
Voilà, ça, oui, c'est vrai, oui, tout à fait.
Bon, mais... ça, c'est une catastrophe. Mais vous étiez dans quelle région, les États-Unis?
J'étais en Californie du Nord, à côté de Berkeley, et j'enseignais le français.
Eh ben c'est bien, Berkeley, c'est une université très cotée.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous savez que c'est le nom, peut-être le pseudonyme d'ailleurs, d'un grand créateur de ballet qui s'appelle Busby Berkeley ?
Non.
Vous n'avez jamais vu la série des chercheuses d'or, les choses comme
pas
ça ?
Pas du tout.
Bon, peu importe. En tout cas, on va écouter l'insomnie. Et si par hasard, il y avait des auditeurs qui étaient en train de dormir, ils vont se réveiller. L'insomnie, puis il y aura un petit message après pour Radio Courtoisie. Vous ne nous en voulez pas.
Non. Il a baillé, racraquevillé, tête enfoncée dans l'oreiller. Tout de suite, il s'est endormi, s'est replié en chien de fusil. Il a tout oublié, son souffle régulier. Je lis dans le noir sur le réveil, une heure moins le quart, j'ai pas sommeil. Il dort si fort, il bat des records. Même quand je rallume, c'est une enclume. Je mange un yaourt et du nougat, il est déjà 1h33. Je lis un peu, je me recouche. Il se retourne, ouvre la bouche. Il marmonne dans son rêve, finalement je me relève. Trop tard pour prendre un somnifère. Demain ça va être l'enfer. J'ai tant de fatigue à nettoyer. 2h50, je suis réveillée. Déjà trois fois je me suis levée, dans l'autre pièce je suis allée, je suis revenue m'allonger, mais sans dormir pour pas changer. Je pense à des choses qui me rendent morose, ce repos que la nuit me dénie. En pensée je vois le film de ma vie, je soupirais pourtant y a pire. Ma seule ennemie, c'est l'insomnie. Et lui qui dort, sommeil en or, ça me rend jalouse, ça me donne le blues. Je fais que gémir, je peux pas dormir.
4h23, je suis toujours là. 5h30, je sors du lit. 6h moins le quart, il se fait tard. J'ouvre la fenêtre, un corbeau crie. C'est bientôt la fin de la nuit. Et mon dernier espoir s'enfuit. Et lui, il dort, il dort, il dort encore.
Oui, on passe pas le petit message. Eh ben, ce sera pour la prochaine fois. Voilà, voilà. Alors, d'abord, moi, j'ai vu dans ce qui est formidable, et ça, les auditeurs peuvent pas le voir, car j'ai décidé. Vous savez pourquoi on n'est pas filmé dans mes émissions? Parce que quand on passe de la musique, on coupe la musique pour des raisons de droit. Or, inviter une chanteuse pour ne pas avoir de musique, c'est un petit peu embêtant quand même, il faut bien le dire, dans les rediffusions. Et alors, moi je suis très content parce que d'abord, pendant toute la chanson, vous la chantiez en même temps, vous étiez en joie, etc. C'était très bien. Et surtout, je suis content d'avoir une influence du jazz dans cette chanson. Et on peut dire que toutes les musiques servent à toutes les chansons et que vraiment, et vous-même, vous êtes très, très ouverte à toutes ces formes de musique différentes.
Oui, d'ailleurs, dans le disque, il y a un tango. Et enfin, voilà, il y a...
Ah, le tango. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, un auditeur, il nous dit « Marilyn Monroe a pu populariser le ukulélé dans un film célèbre ». Oui, c'est certain Lem Show.
Oui.
Mais est-ce que vous avez vu aussi Elvis dans Blue Hawaii?
Non, j'ai pas vu ce film. Hein. Oh, mais ce qu'il faut dire sur le ukulélé, c'est que Marilyn Monroe, elle a un ukulélé soprano, qui est le tout petit ukulélé. Et moi, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais c'est un ukulélé ténor qui est déjà plus grand.
Il y a quatre tailles d'ukulélé. Il fait 50 cm. Hein.
Voilà, il fait 54 cm.
54.
Et donc, c'est plus confortable à jouer.
Et alors, tout est inspiration pour vous. Et alors, ben, je veux pas, il y en a une, par exemple, qui est sur l'air classique. Alors là, la musique est pas de vous. C'est Malbouffe s'en va en guerre. Évidemment, on a compris ce que ça voulait dire, Malbouffe s'en va en guerre. C'est Malbrou s'en va en guerre. Vous luttez contre, mais alors, qu'est-ce que c'est exactement que la Malbouffe? Parce que, vous avez entendu la dame qui dit qu'il faut plus dire steak, faut dire cadavre d'animal.
Ça, c'est de l'idéologie, c'est autre chose.
Ah voilà, très bien vu, très bien vu.
Non, non, la malbouffe, c'est toutes les saletés qu'on nous met dans la nourriture industrielle, que je fuis comme la peste. C'est plein de choses.
Oui, oui, bien sûr.
Les additifs, les engrais, c'est aussi les pommes qu'on fait venir du bout du monde alors qu'on détruit l'agriculture ici. Enfin voilà, c'est plein de choses, la malbouffe.
Juste quelques vers a cappella pour donner l'idée. On ne va pas passer ce disque-là, mais juste quelques vers a cappella, c'est possible? Malbouffe s'en va en guerre.
Malbouffe s'en va en guerre, et toi tu n'as que le droit de te taire. Malbouffe s'en va en guerre, et tu deviens tout gras.
Ah, Berk. Non, mais tout le monde a le droit d'être comme il est aussi, hein, voilà.
Non, mais je veux dire, cette malbouffe-là, elle fait prendre du poids aux gens quand on mange normalement. Enfin, voilà, après, ça dépend des... Voilà, les gens deviennent très gros parce qu'aussi la nourriture les fait...
Alors, comme toutes les personnes, femmes ou hommes d'ailleurs, qui s'intéressaient à la poésie, qui s'intéressaient à la condition humaine, et même quand on est joyeuse, comme vous l'êtes, hein, on l'entend dans vos chansons et là, dans votre façon de répondre, eh ben, il y a quand même le thème de la mort qui revient, et très très souvent. Alors, on va se passer les asticots, et vous préférez la présenter avant ou la présenter après?
Oh, il n'y a pas grand-chose à présenter.
Voilà. Enfin, et puis là, notre ami va mettre le petit message de Radio Courtoisie tout de suite après. Les asticots.
Quand on dit qu'on travaille pour vivre et qu'on se crève à travailler, qu'on n'a jamais le temps de lire un livre et trop de factures à payer, il faut se rappeler qu'après l'enfer, on sera de nouveau dans une boîte, à seule fin de nourrir les vers, qu'on soit de gauche ou bien de droite. Qu'on se la coule douce, qu'on bosse trop, on nourrira les asticots, et ceux-là n'auront jamais faim quand nous serons défunts. D'abord ils m'ont donné la vie sans me demander mon avis. Puis ils m'ont dit faut que tu la gagnes, tu travailleras au bagne. Tous les matins tu te lèveras, à ton boulot tu te rendras. Comme si tout n'allait pas finir un jour ou l'autre dans l'avenir. Qu'on se la coule douce, qu'on bosse trop, on nourrira les asticots. Et ceux-là n'auront jamais faim, quand nous serons défunts. Ce que je fais sur cette terre, voilà qui demeure un mystère. Cette vie absurde et tragique, où tout se résume à faire du fric. Il y a au moins une réalité qui nous met à égalité. Riche ou pauvre, on paiera banco quand la mort voudra son écho. Quand cela coule douce, qu'on bosse trop, on nourrira les asticots. Et ceux-là n'auront jamais faim quand nous serons défunts. Qu'on cela coule douce, qu'on bosse trop, on nourrira les asticots. Et ceux-là n'auront jamais faim quand nous serons défunts.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Oui, alors je suis sur Radio Courtoisie avec Isabelle Sochefer, cette excellente chanteuse et qui écrit ses textes pour son dernier album, alors on va dire un disque compact, qui s'intitule « Chansons saignantes ». Ça, c'est un beau titre. Mais alors, comment se le procure-t-on ?
On va sur mon site, isabellesochefer.com. Alors, pour écrire Isabelle, bah, I-S-A-B-E-2-L-E, tout attaché. Avec Sochefer, alors c'est S-O-J, comme si on écrivait soja sans le A, et F-E-R, comme du fer.
Oh.
C'est un nom pas évident, donc isabellesochefer.com, et là on peut se procurer mes deux albums.
Ce qui est bien, c'est quand on a du talent, les noms pas évidents deviennent évidents. Il y a des tas de gens à qui on a dit « vous réussirez jamais, il faut trouver un pseudonyme », et qui sont devenus des...
J'ai essayé de me dire ça, et je n'arrive pas à être... J'arrive pas à prendre un... Je n'ai jamais réussi à prendre un pseudo. J'arrive pas avec quelqu'un d'autre que moi.
Bah, Isabelle Sochefer, ça fait IS. Qu'est-ce qui veut dire également IS
IS, is, en anglais. Ah. Eh, le verbe être, c'est bien aussi.
Oui, et puis intelligence service, peut-être aussi.
Peut-être.
Voilà. Non, mais alors, vous allez dans tous les domaines de la chanson. Et écoutez, on va tout de suite en faire une autre. On va faire le frigo, parce que vous m'avez dit, est-ce que vous avez prévu telle chanson? Alors, j'accélère un peu pour qu'on puisse passer une chanson.
D'accord, allons-y pour le frigo.
Une seule, hein.
D'accord. Vous
savez, moi, je veux bien être gentil avec les femmes, mais il ne faut pas exagérer.
Qu'elle lui passait l'arme à gauche, grand-mère catégoriquement refuse d'être à celle qui fauche et de faire l'objet d'un enterrement. Elle voulait ça peut se comprendre, rester au sein de la maison, parmi les siens plutôt qu'en cendres, mourir n'est pas être en prison. Dans le bas du réfrigérateur, deux jours après grand-mère trônait, juste au-dessous de la plaquette de beurre et face à la bouteille de lait. Assise dans le bac à légumes, à la famille elle présidait. Jamais elle n'attrapa de rhume et le frigo la conservait. On lui disait bonsoir, bonjour, comment te portes-tu mémé? Et elle nous répondait toujours, je vais bien quoique décédée. Mais elle était de nature inquiète et quand elle ne nous voyait pas, elle se disait faut que j'enquête et s'enquérait de nos repas. La vérité doit être dite, même si parfois elle peut blesser. Grand-mère était devenue un rite qui commençait à nous peser. Nous développâmes une tendance à ne plus ouvrir le frigo, laissant le beurre devenir rance pour aller manger au McDo. Bien souvent nous pouvions l'entendre de l'intérieur tambouriner, ou bien nous crier des mots tendres avant de se mettre à pleurer.
au risque de vous sembler lâche, bien humblement je vous l'avoue, il m'est égal que ça se sache, pour fuir m'aimer je m'y les bouts. Et dans la famille plus personne de cuisiner n'avait envie, maman jeûnait comme une nonne, elle avait perdu l'appétit. Tant et si bien que la grand-mère, en dépit de ses protestations, fut un jour conduite au cimetière pour laisser place aux provisions. Si cette histoire a une morale, en a-t-elle eu, je ne sais pas. C'est que pour manger de façon normale, il faut éloigner le trépas. S'il y a un sens à cette histoire, y en a-t-il un, je ne sais pas. C'est qu'on s'expose à des déboires en laissant les morts faire la loi.
Le frigo, alors pourquoi le frigo? Ça vous fascine un frigo, cette espèce d'armoire froide?
Ben, c'est-à-dire que quelque temps après avoir perdu ma grand-mère, j'ai rêvé qu'il suffisait d'ouvrir la porte du frigo et qu'elle était assise dans le bac à légumes, enfin le tronc jusqu'à la tête, on ne voyait pas ses jambes. Et donc j'étais vraiment, c'était un beau rêve quoi. Pour lui parler, il suffisait d'ouvrir la porte du frigo. Et cette image m'a hantée. Enfin, ça fait des années jusqu'à ce que je fasse cette chanson. Voilà, les rêves me laissent des fois des impressions très prégnantes. Il faut que j'en fasse quelque chose. Donc voilà, j'ai fait ça.
Ah non, mais les rêves, c'est très important. Et même quand on écrit une chanson sur l'insomnie, on peut aussi rêver.
Aussi.
D'ailleurs, pour nous faire rêver, je voudrais qu'on parle aussi. On va repasser des disques. Hein, vous cassez pas la tête. Et puis vous allez nous interpréter une chanson au ukulélé. Mais avant, je voulais dire aussi que vous êtes écrivain. Que vous publiez plutôt des contes
Alors en fait, bon, je ne sais pas s'ils sont plus édités maintenant. J'ai repris mes droits, mais j'ai publié 3 recueils de nouvelles. Enfin, les éditions des Petits Matins à l'époque ont publié 3 recueils de nouvelles de moi. Donc, mais c'était il y a 20 ans. Et j'ai repris mes droits depuis. Et bon, voilà, c'est... Mais donc c'était des contes cruels. Aussi beaucoup de choses faites à base de rêves aussi. Toujours, je m'aimais. Les choses qui me viennent en rêve, et puis beaucoup d'humour noir, hein, parce que j'aime bien.
C'est très bien.
Voilà.
Mais attendez, là, on ne parle pas de vos influences en chanson, parce qu'elles doivent être multiples, et vous devez aimer les grands, mais en littérature, alors.
J'en ai eu plein aussi.
Vous aimez beaucoup les contes, Perrault, Andersen.
D'abord, j'aime beaucoup les contes. J'ai même fait du conte, enfin, notre travail de conteuse. J'aime beaucoup.
Des contes que vous disiez sur scène.
Oui, des contes. Vous savez, voilà. Mais en fait, on ne les apprend pas par cœur. On apprend les grandes lignes et c'est de l'improvisation.
Ah bon?
Ouais, le conte. Ben si, c'est tout un travail. C'est.
Voilà, ben, c'est plus dur aussi.
Oui, ben oui, mais c'est plus vivant.
Ouais, bon.
Bah oui.
Je sais pas, et, moi.
Mais pas uniquement le conte. Hein. Moi, j'ai été nourrie à la littérature. Alors, vous dire les auteurs qui m'ont marqué. Il y a plein d'auteurs qui m'ont marqué pour des livres différents, différentes époques. Mais puisqu'on parle des nouvelles et des nouvelles cruelles, il y a Flannery O'Connor qui a été, quand j'ai découvert ça, voilà, qui a été une des nombreuses révélations littéraires.
C'est un Irlandais?
Non, c'est une Américaine.
Une Américaine.
Du sud des États-Unis, un petit peu comme Carson McCullers. C'est vraiment d'une force. Il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle « Les braves gens ne courent pas les rues », qui est « Chaque nouvelle est renversante ».
Ça, c'est bien vrai.
Oui, d'abord, c'est bien vrai. Enfin, voilà, il y a une puissance littéraire. Alors, ça, pour moi, c'est vraiment...
Vous les avez découverts quand vous étiez prof
quand
en Californie?
Quand j'étais aux États-Unis, c'est vrai que j'ai découvert... Alors, en fait, c'était un roman d'elle qui s'appelait « Wise Blood », « La sagesse dans le sang ». C'était un truc.
La sagesse dans le champ?
Dans le sang. Wise blood. La sagesse dans le sang. Non, mais ça, c'est juste le titre.
Non, parce qu'il y a aussi de la sagesse dans le champ dans vos chansons.
Oui, il y a de la sagesse.
Pour revenir, il y a quand même quelqu'un qui doit vous inspirer. C'est Marcel Aimé, quand même.
Aussi, bien sûr. Ah, mais il y a plein de. En fait, c'est tout. J'ai lu toute ma vie, puis alors dans le désordre, hein, j'ai rarement pris un auteur. S'il y a quelques années, j'ai pris Octave Mirbeau un été, enfin c'est rare, je suis pas très, voilà, c'est un peu dans le désordre, et puis il y a des livres qui me frappent.
Octave Mirbeau, c'est saignant. Hein.
D'une part, et c'est très profond, hein, c'est triste aussi. Je pense qu'il y a un roman autobiographique qui s'appelle Sébastien, je ne sais plus le nom, mais enfin c'est autobiographique, c'est sa jeunesse chez les prêtres, les jésuites, c'est terrible. On parle beaucoup de pédocriminalité, il parle de ça à mot couvert, c'est terrible. C'est bon, enfin voilà, oui. Évidemment, il y a le journal d'une femme de chambre qui est très... On connaît, c'est l'œuvre la plus connue d'Octave Mirbeau.
Les affaires sont les affaires, le foyer, ça c'est des pièces de théâtre.
Oui, voilà, mais je pensais surtout... Enfin, bon.
Bah, peu importe.
Mais voilà, sinon, j'ai lu énormément de choses dans le désordre. Et
pour les contes pour enfants, vous connaissez les contes de la rue Brocade, Pierre Gris-Parry?
Oui, j'adore, bien sûr.
Et tout le monde l'aime.
Ah oui.
Alors, bon, et donc, on peut dire que vous êtes nourri à deux parties de la langue française, indépendamment de la musique, mais qui est parfois de vous, mais parfois d'autres aussi. Mais vraiment, vos textes de chansons, c'est à la fois la littérature, la chanson, c'est une sorte d'hommage permanent de la langue française.
Ben oui. Elle mérite bien d'être défendue, quoi.
Ah ça, alors là, si vous savez, à Radio Courtoisie, on dit c'est la radio libre de la du PRL et de la francophonie. La francophonie, je sais pas trop ce qu'elle est en train de devenir. Alors, j'ai accéléré un peu le processus parce que vous m'avez dit comment vous avez oublié de programmer telle chanson, mais
non,
vous l'avez
non,
dit
non,
avec un sourire.
Non, mais vous m'aviez demandé au téléphone.
Alors, qu'est-ce que vous allez demander à notre ami le technicien? Non, mais dites-lui au micro, il le comprendra plus facilement, parce qu'il entend tout ce qu'on dit.
Hein. Bien sûr. Eh bien, passons le loup, scène de ménage.
Scène de ménage?
Ah oui, scène de ménage. Passons scène de ménage.
Scène de ménage. Voilà, c'est prêt.
Pour une bonne scène de ménage, prendre une salade, n'importe quoi, broutille, chemise, promenade au bois, et puis en faire tout un fromage. Le principe est de partir d'un petit truc pour aboutir au conflit. D'abord vous commencez piano, puis vous montez sur vos grands chevaux. Faites une belle scène de ménage, pas juste une querelle d'amoureux. Profitez du fait d'être deux gars, chez vous la vie dans le partage. Pensez à de plus graves sujets, les enfants si vous en avez. L'essentiel dans la discussion étant de suivre une gradation. Il ne s'agit pas toutefois de redevenir célibataire, sinon à qui ferez-vous la guerre? La scène est un art délicat, tout est affaire de dosage dans l'assaisonnement du ménage. Notez que ce plat ne se mange pas froid, mais saupoudré de mauvaise foi. Accommodée de mille manières, la scène de ménage ravira petits et grands, elle distraira les voisins de votre chaumière. La scène peut être recyclée, tout peut être récupéré, ce qui en fait une recette pratique et surtout très économique. Et pour finir une suggestion, servez directement au lit. Votre scène sera réussie avec les fruits de la passion. Après les débats, les ébats, pour se détendre, il faut bien ça. Une fois les ébats terminés, la dispute peut recommencer. Pour ne pas s'ennuyer en couple, faut se trouver des poux dans les cheveux. Ajoutez de l'huile sur le feu, il ne faut pas vous montrer sous. Ayez des tas d'a priori, pensez à lui pourrir la vie. Emmerdez l'autre tous les jours, faites-le bien sûr au nom de l'amour. Au nom de l'amour, au nom de l'amour.
Contente qu'on vous ait passé la chanson que vous vouliez.
Oui.
On est gentil sur Radio Courtoisie.
Mais
on
mais
est
oui.
Tellement gentil que Gabriel envoie un message où il dit « La voix de cette chanteuse, Isabelle Sochefer, hein, retenez son nom. »
S-O-J-F-E-R.
Allez sur son site,
isabellesochefer.com. Isabellesochefer.com, S-O-J comme du soja, sans le A, et F-E-R comme du fer.
« La voix de cette chanteuse me rappelle celle d'Anne Sylvestre et de Brigitte Bardot. » Ce sont des compliments, à mon avis.
Oui,
tenez,
merci.
Je vous donne le message, ça sera un souvenir. Alors, maintenant...
Merci, monsieur.
Bah, cher Gabriel, il m'engueule pour autre chose, mais... bon, bref, pas grave. Oui, alors, il vous parlait aussi que bientôt, on peut vous voir sur scène, que je vous ai déjà vu sur scène, que vous avez une grande présence scénique, et vous passez à peu près toujours dans le même endroit.
Ah bah, j'ai mon quartier général, qui est le Connétable, à Paris, qui est le temple de la chanson française. C'est au coin de la rue des Archives et de la rue des Audriettes. Et le 5 juin prochain, je propose un récital de chansons actrices chanteuses, c'est-à-dire toutes les actrices qui ont fait de la chanson, dont Brigitte Bardot, évidemment, entre autres. Donc, ce sont soit des chansons qu'elles ont chantées dans des films, soit en dehors de films. Enfin, voilà, c'est actrices chanteuses. Et le 19 juin, toujours au même endroit, un concert sur le premier Gainsbourg. Serge Gainsbourg de 1958 à 67. Voilà. Le premier Gainsbourg.
On peut peut-être aller, moi j'irai jusqu'à l'homme à tête de chou, mais après, disons que vous devez être comme moi, vous préférez Gainsbourg à
voilà,
Gainsbourg.
Voilà, je préfère le premier Gainsbourg.
Non, mais c'est un homme de culture.
À l'époque, il savait
hein.
se raser.
Oui, ben, à mon avis, c'est son anglish là, qui l'a mis dans... bon, bref.
Et alors, pour venir, si ça intéresse des gens, la salle est petite. Donc, je vais vous redonner l'adresse de mon site, isabellesauchefer.com. Sauchefer, S-O-J comme du soja sans le A, F-E-R comme du fer. Donc, vous m'envoyez un message via ce site, vous cliquez sur contact, ça va ouvrir la messagerie. C'est mieux de réserver parce que la salle n'est pas extensible.
Alors, je vous ai déjà vu, vous êtes excellente et c'est pas facile avec seulement comme vous dites.
Un ukulélé.
Voilà, et vous êtes excellente. Alors, je tiens à dire qu'évidemment, l'entrée est gratuite, mais on paye pour sortir, c'est-à-dire vous passez le chapeau.
Oui, comme on fait souvent dans les endroits.
Voilà, et je tiens à dire que vraiment, les gens qui donnent des pièces sont des mal élevés. Voilà, je tiens à le dire. Faut quand même que les artistes bouffent. Enfin,
sont relativement dans l'ensemble, voilà, c'est relativement...
Alors, vous allez nous... Alors, quelles sont les actrices que... citez-nous les actrices...
Daniel Darieux, Micheline Prel, Arletty.
Laquelle de Micheline Prel ?
Paradis perdu.
Ah oui, le
mais
film.
Mais c'est pas
de...
celle que je vais vous chanter.
Elle a 17 ans, je crois, dans ce film. C'est un film d'Abel Gance de 1930.
C'est 1940, Paradis perdu. C'est un film d'Abel Gance, 1940. Oui, oui. Mais c'est pas celle que j'ai prévu de vous chanter.
D'autres chants. Alors, Bardot, vous avez Bardot.
Jeanne Moreau, Marie Laforêt, je suis pas encore sûre que je vais en faire une de Marie Laforêt, mais on pourrait faire Marie Laforêt. Après, en fait, on se rend compte, il y a énormément d'actrices qui ont chanté. J'ai même découvert hier une chanson enregistrée par Françoise Rosay. Est-ce que vous saviez que Françoise Rosay
a
chanté?
Non.
Voilà. Elle chante d'une voix suraiguë qui va pas du tout avec son physique, mais bon.
Peu importe.
Voilà. J'ai l'embarras du choix. Mais là, j'ai choisi de vous interpréter une chanson d'Arletty, qui est... Alors, c'est le track, j'oublie à l'instant le titre du film dans lequel elle chante ça.
Mais moi, je vais le retrouver, parce
vous
que
allez
je connais
le retrouver.
Un peu le cinéma. Alors, vous allez nous chanter ça. Vous avez le titre de la chanson, quand même.
Oui, quand même. La femme est faite pour l'homme. Ah, Parole de Casimiro Berlé, musique... Et c'est un film, et bien écoutez, les autres, il suffit de chercher...
Alors, vous allez vous accompagner...
Le titre du film m'échappe à l'instant.
Vous allez vous accompagner au ukulélé. Il y a une très jolie fleur.
C'est toujours vous la fleur au ukulélé.
Voilà. Pas pour moi.
Il y en a qui ont la fleur au fusil, moi j'ai la fleur au ukulélé.
C'est pas plus mal.
C'est pas plus mal.
Allez, nous vous écoutons.
Quand au paradis, sous un pommier couvert de fruits, Adam vit la femme, il fut bien surpris. Il fit stupéfait ce petit joujou, pourquoi c'est fait? Et il vit un serpent, mesdames, lui dit l'œil en flamme, la femme est faite pour l'homme. Comme le pommier pour la pomme, comme l'oiseau est fait pour le roseau, et le nid pour l'oiseau. Oui, pour l'homme, la femme est faite, comme l'eau pour la fleurette, comme la perdrix pour le petit perdreau, et la laine pour l'agneau. Le père Adam qui n'était pas en bois compris cette loi. Car c'est vrai ce qu'un jour au paradis, le serpent a dit, la femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme le soleil est fait pour les beaux jours, et le cœur pour l'amour. Sans femme vraiment, l'homme s'ennuierait terriblement.
Oula.
Pour lui, quel martyr, quel affreux tourment. Mais sans homme aussi, mesdames, avouez-le ici, Vous n'auriez pas le sourire, car il faut bien le dire, la femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme le pépin est fait pour le raisin, et le gant pour la main. Oui, pour l'homme, la femme est faite, comme le rond pour la serviette, comme le disque est fait pour le phoneau, et le doigt pour l'anneau, comme la cage est faite pour l'écureuil, le lorgnon pour l'œil, comme la mer est faite pour le bateau, le pneu pour l'auto. La femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme la baguette est faite pour le tambour, et le cœur pour l'amour, et le cœur pour l'amour, et le cœur pour l'amour.
Bravo, bravo, et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui font de la même chose, même s'ils sont seuls, mais ils sont devant leur poste de radio et disent « Cette jeune femme est vraiment formidable. » C'est une... En plus, les paroles, avec l'allusion à la pomme et au pommier,
vous savez, c'est les années 30-40, alors on ne parlait pas des choses directement. Mais oui, le doigt dans l'anneau, le rond pour la serviette, alors, on comprend quand même.
Oui, oui, d'accord, mais... disons qu'une chose, il y a toujours quelque chose qui a existé dans les bonnes langues et aussi dans la chanson française, c'est l'allusion, quoi.
Oui.
Voilà.
Bon,
mais vous, alors si vous dites c'est Oberlé qui aurait fait les paroles.
Oui, oui, c'est Oberlé et puis le nom du compositeur m'échappe et le titre du film surtout m'échappe, mais enfin les auditeurs retrouveront.
Qui le metteur en scène
Écoutez, c'est l'émotion là. Je l'ai encore vu tout à l'heure. Oui.
C'est
le trac.
Le Traxi. Alors, on va récapituler. Vous savez que moi, je reçois souvent le petit-fils d'Albert Wilmets hein, dans mon émission.
Ah oui, en effet.
Et bon, alors, d'ailleurs, il m'a expliqué une chose, je ne sais pas si vous le savez, mon homme, on dit c'est une chanson misogyne, affreuse. Il a fait ça pour se moquer des chanteuses style Fréhel, Damia, que par ailleurs, je considère Fréhel comme immense. Bon. Et les gens l'ont pris au premier degré. Et ben, tant pis. Et vous devez aimer aussi, alors, en anglais, la version de Billie Holiday, évidemment. Ça, c'est...
Oui, oui, bien
My
sûr.
My Man, voilà. Mm. Bon. Alors, on va récapituler un petit peu tout ça, parce que, franchement, j'aime que ça marche pour vous. Alors, donc, il y a deux spectacles. Il y a le 5 juin.
Le 5 juin, actrice-chanteuse. Le 19 juin, le premier Gainsbourg. Le titre du premier Gainsbourg, c'est un exercice de diction. Le titre de ce spectacle, c'est « Suis-je chez ce cher Serge ?»
Ça correspond à une phrase qu'il a prononcée.
Non, ça correspond, je cherchais un titre pour ce spectacle, plutôt que de dire le premier Gainsbourg, je l'ai intitulé « Suis-je chez ce Serge ?» Mince, je viens de faire une erreur.
Ah,
mais il faut s'entraîner, il faut s'entraîner.
Venir, vous.
Voilà, mais le sous-titre, c'est le premier Gainsbourg, donc les chansons de 58 à 65. Et donc, pour ces deux spectacles, tous les détails sont sur mon site, isabellesochefer.com, et... Je vous invite, si vous souhaitez venir, à m'envoyer un petit mot pour que je puisse vous réserver les places. Voilà, parce et que la salle n'est pas très grande.
Et ceux qui habitent à côté du 55 rue des Archives, métro Rambuteau, peuvent peut-être même aller réserver sur place pour ceux qui...
Non, parce que le restaurant ne prend pas les réservations, c'est l'artiste qui gère.
En tout cas, moi qui y suis allé, je peux vous dire qu'ils ont un excellent chardonnay.
Ah oui, tout à fait.
Ouais. Si vous aviez vu la tête d'Isabelle Sachefer quand on a prononcé le mot de chardonnay, mais, mais en plus, c'est une très... Alors, Gainsbourg, bon, vous auriez pu faire quelqu'un d'autre aussi de très talentueux.
Ah, mais j'ai plein d'autres répertoires, là, c'est ce qu'il y a au programme au
et
mois de juin.
Et surtout, n'oublions jamais qu'il connaissait énormément bien la chanson, la littérature française et la poésie française. Il a mis en tcha-tcha-tcha la nuit d'octobre, je crois, de Musset. Et oui, honte à toi qui la première m'a appris la trahison.
Ah oui, c'est vrai, je la fais pas dans...
Il a fait
le
rock de Nerval.
Oui.
Il a montré que Ferré comprenait rien à Baudelaire. Il a le serpent qui danse par Ferré et par Gainsbourg. Gainsbourg, il l'a mis en bossa nova, il a pigé, lui, voilà. Et voilà. Alors, nous sommes... Nous sommes toujours sur Radio Courtoisie avec Isabelle Sauchefer. Donc, 5 juin, 19 juin, le disque, c'est Chansons saignantes, toujours sur le site.
isabellesauchefer.com, Sauchefer, S-O-J comme du soja, sans le A, F-E-R comme du fer. Je suis désolée de répéter ça, mais c'est un nom bizarre, voilà. Et...
Alors, je voudrais faire une petite annonce. C'est un auditeur qui est passé dans mon émission, d'ailleurs, qui est un photographe de talent, qui s'appelle Alain Lenabour, et il participe à la 62e Foire internationale de la photo. Comment peut-on mettre le mot foire au mot à ce qui est une exposition d'art, ça, c'est, bon, qui est à Bièvre, où il y a un musée de la photo, d'ailleurs, les 6 et 7 juin 2026. Et ça vous concerne un petit peu, parce qu'il a photographié 200 couples qui s'aiment. Mais c'est formidable, non hein? C'est beau l'amour, hein? vous qui le chantez si bien, c'est beau l'amour,
oui,
non?
Oui, bien sûr.
Comment ça, on a encore 2 minutes, il n'y a plus de 2 minutes. Bon, alors, prochaine émission le 20 juin, mais vraiment, procurez-vous Isabelle Sauchefer.
Son album.
On parlera de littérature, et on parlera de littérature, évidemment, ça n'étonnera personne.
Vous venez d'entendre le libre journal de la douceur de vivre d'Alain Pocard, une émission diffusée en direct sur Radio Courtoisie le 23 mai 2026 de 18h à 19h30 et réalisée par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.